grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le professeur Stéphane Nzita. Voilà, j'ai bien prononcé le nom, j'espère.
Oui.
Alors, le professeur Nzita, il est chancelier recteur et initiateur principal de l'Université chrétienne internationale. Professeur, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de vous, de votre personne. C'est vous qui serez au centre de notre entretien, mais également de l'Université chrétienne internationale, d'où vous est venue l'idée de créer cette université et pourquoi on l'appelle Université chrétienne internationale. Vous nous donnerez les détails tout à l'heure dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Merci, je suis né à Bouma, je suis fils d'enseignant, ma mère c'est enseignante, mon père c'est enseignant, je suis d'une culture des enseignants. C'est dans les Bas-Congo.
C'est comme ça que vous avez choisi aussi l'enseignement?
Non, j'ai tout fait pour éviter l'enseignement et l'enseignement m'a poursuivi. Mon père, quand il est venu aux États-Unis où nous résidons, il était certain que je ne viendrai plus jamais dans l'enseignement. Et quand il rentre au Congo, me trouve dans l'enseignement, il se met à rire. Il dit, mais finalement, tu es avec nous encore.
Ça c'est une famille des enseignants, finalement.
Tout à fait, oui.
Et c'est à Boma où vous avez grandi?
Oui, je suis né à Boma, mais j'ai fait les Bas-Congo presque dans les Mayombe. J'ai commencé la première année primaire à Kamilelo, c'est un petit village. Et puis, je suis parti pour Madouda, et une école protestante, et puis je suis parti pour Boma, la colonie scolaire où j'ai terminé mes études secondaires, et voilà, c'était pas comme ça.
Alors vous êtes diplômé de l'école des frères des écoles chrétiennes?
Tout à fait, et l'ancienne colonie scolaire qu'on a changé de nom, Estivan à Boma, Boma Mungu, tout ça, oui,
c'est là où vous avez fait quelle section?
J'ai fait la section commerciale, je voulais être journaliste, voilà, justement.
Mais qu'est-ce que vous avez tourné de votre choix?
Voilà, quand je suis parti faire l'examen d'admission chez les frères, a donné des examens pour français, mathématiques, et ainsi de suite. Alors finalement, on m'a dit, mais vous allez en commercial. Ce qui a fait que jusqu'à la fin de mes études, quand on parle de Cicéron, je suis toujours en colère.
Parce que vous aviez aimé faire les études du terrain, malheureusement, on vous a orienté en commercial.
C'était
malheureux. Vous regrettez un peu?
Bon, écoutez, je me retrouve maintenant que je suis pendant 20 minutes engagé à la radio Capi. Oui, mais quand même, c'était un peu un petit regret, mais c'était la volonté de Dieu, parce que c'était les pas qu'il a voulu que j'aille dans ma vie et qui m'a conduit jusque là où je suis maintenant.
Licencié en sciences biologie-chimie à Geneva College.
Oui, après que j'ai terminé les études, j'ai travaillé au Congo pendant une année. J'étais enseignant à l'école secondaire.
Après vos études secondaires?
Tout à fait, oui. Et puis, je suis parti pour Kinkonzi, hôpital évangélique, où j'étais directeur de internat de l'école infirmière, et juste après ça, je suis parti pour les États-Unis et j'ai atterri en Pennsylvanie et Geneva College, une école des arts libéraux où je voulais faire la médecine, mais j'étais plus emporté par la chimie et la biologie. Voilà, je me suis vu de faire la chimie industrielle et la biologie.
De la commerciale, vous vous retrouvez en chimie, biologie.
C'était intéressant parce que nous, en commercial, il n'y a pas de chimie jusqu'en 5e et il n'y en a plus. Mais j'ai pris aux États-Unis, j'ai repris tout, mais c'était un recul nécessaire et je suis très satisfait que j'ai fait la biologie et la chimie.
Et comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? Parce que la famille allait habiter là-bas par une bourse d'études?
Bon, c'était une longue histoire, mais c'était la providence de Dieu. J'étais à Kinkonzi, je suis en train de travailler, et puis finalement, quelqu'un est venu visiter Kinkonzi. Je ne voulais pas dire que je donnais des détails intéressants, que j'étais dans cet hôpital-là pendant mon enfance, quand j'étais en sixième primaire. Pendant une année, j'étais malade là-bas de cet hôpital. Donc, je n'aimais pas l'hôpital pour commencer. Mais quand on m'a envoyé là-bas pour être en internat, je suis parti. Et finalement, un monsieur est revenu. On a arrangé les choses pour moi. Puis, dans 5 jours, je me trouve aux États-Unis. Et je ne sais pas comment tout est arrivé, mais c'est
donc
presque...
Donc, vous êtes allé là-bas pour les soins d'abord?
Non, 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 non. j'étais malade quand j'étais à l'école primaire, hein, j'étais guéri.
Ah, d'accord.
Mais je suis rentré là-bas, c'est cette place-là où j'étais malade, c'est là où quelqu'un m'a vu et quelqu'un m'a aidé. Et je me retrouve aux États-Unis dans une famille qui a payé toutes mes études au nom de Christ, au nom de Dieu. Et puis, j'étais parmi les premiers, d'ailleurs les premiers Congolais, d'avoir été un pasteur de mon église qui était ordonné aux États-Unis.
Ah, parce que vous êtes aussi pasteur.
Je suis pasteur, oui.
Alors, professeur Stéphane Zitor, vous ne m'aviez pas dit en quelle année vous êtes né?
Et je suis né en 1960, le 30 avril.
1960.
Oui, donc quand l'indépendance arrive, je suis déjà né, je suis avant l'indépendance.
Vous étiez encore bébé, vous ne connaissiez rien de l'indépendance.
Quand on dansait, j'étais dans la main de ma mère.
Alors, vous obtenez votre licence en 86, ça veut dire que vous êtes allé aux États-Unis vers les années 80.
Déjà. Je suis parti en 82, ça fait 4 ans. Voilà. Le système que je suis en train de combattre et que vous pouvez mettre au Congo, la licence c'est dans 4 ans, donc au bout de 4 ans, on peut finir sa licence et puis une année ou deux ans, on fait la maîtrise et ainsi de suite. Donc j'ai fait les mêmes cursus que je suis en train de promouvoir au Congo ici, oui.
Donc après votre licence, vous avez fait une maîtrise en relations interculturelles.
Interculturelles.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est comme quand je suis parti dans mon université, il y avait, c'est juste presque vers la fin de la guerre froide, il y avait besoin d'avoir des gens qui partaient dans d'autres lieux tels que l'URSS ailleurs. Donc on voulait que les gens aient un dialogue de culture. Et relations interculturelles, c'est là qu'on voit les autres fois, les autres cultures, les autres paradigmes de vie, l'autre vision du monde, et puis par rapport au vôtre. Pour apprécier votre culture, il faut connaître les autres aussi. Alors, c'est au niveau d'une école théologique où nous avons fait ça, et de là, je suis parti compter autre chose, oui.
En 90, vous êtes docteur en administration des sociétés et en psychologie pastorale.
Hein? Oh oui.
Toujours aux États-Unis.
Toujours aux États-Unis. Et à ce moment-là, je suis en train de voir ce que je pouvais faire au Congo. Alors, premièrement, il y a un problème de l'administration qui doit être retouché de manière scientifique. Mais également, il y a toujours des cassures, des blessures qui demandent quand même un counseling, si vous voulez, et de confronter les choses. J'ai combiné les deux. Ce qui est avantagé aux États-Unis, c'est qu'on peut pratiquement combiner. Quand quelqu'un va faire, par exemple, les droits, il ne commence pas seulement les droits, il fait des licences en économie, par exemple, comme mon fils l'a fait. Et puis, au niveau des doctorats, il va faire 3 ans de doctorat. Donc, le système est tellement souple qui permet que l'étudiant peut pratiquement arranger ses ambitions et les rencontrer avec ce qui est disponible aux États-Unis.
Et c'est ce système que vous voulez emmener au Congo.
Tout à fait.
À travers l'université chrétienne internationale.
Tout à fait. Et depuis 1993, quand je suis venu ici au Congo pour commencer l'université le 1er avril, nous voulons que les...
Vous êtes resté, excusez-moi, professeur, vous êtes resté combien d'années aux États-Unis?
Bon, tout à fait. Je fais aux États-Unis en total 19 ans. Mais à partir de 1993, je suis revenu au Congo pour 7 jours tous les 3 mois.
Vous êtes resté 19 ans pour raison d'études ou bien vous avez eu le temps de travailler à gauche, à droite?
Bon, raison d'études, puis j'étais aussi pasteur, mais j'étais aussi chimiste à l'industrie où j'ai appris ce que j'ai appris au niveau de la licence, mais j'étais aussi consultant, donc j'ai fait les 3, c'est partout aux États-Unis pour étudier, et puis j'y ai travaillé, et puis j'ai créé la résidence là-bas aussi.
Marié, père de combien d'enfants?
2 enfants. Et...
Seulement, professeur.
Bah, c'était intéressant quand même parce qu'on a eu que des garçons, mais 2 enfants c'était suffisant. Une table, souvent 4 chaises, donc on pouvait se partager les 4 chaises.
Une table aussi 6 chaises, professeur, voire même 8. Hein?
Bon, pour les riches, oui.
Alors, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
De mon enfance, le souvenir le plus marquant, c'est quoi?
Il y en a beaucoup, hein?
Il y en a beaucoup, mais ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'étais en première année primaire. nous devions construire notre salle de classe. Il n'y avait pas de salle de classe. Mon papa était parti, était un homme qui commençait les écoles. Nous sommes partis à Camilelo. On arrive, il n'y a pas de classe. On a montré les champs où on pouvait créer l'école. Alors là-bas, j'avais pour la première fois ramassé et on m'a donné un perroquet qui venait dans un arbre qu'on a coupé. Et c'était pour moi. Je l'ai gardé pour 3 ans. Puis il a fui. Mais c'était mon ami pendant 3 ans. J'avais un perroquet quand j'étais en première année primaire.
Qui vous a offert ce perroquet?
Les gens, les camélélo.
Vous aimez les animaux?
J'aime beaucoup tous les êtres vivants, animaux, oiseaux, tout ça. Oui, j'aime beaucoup.
C'est quoi votre plat préféré, professeur?
Bon, écoutez, il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que les bitoto.
Les bitoto?
Bitoto, oui. Bitoto, c'est quelque chose comme les stews, hein, pour les Américains. Et là, on prend les patates, on met ensemble avec quelque chose, on mélange tout. C'est un repas totalement Congo.
C'est une spécialité du Bas-Congo?
Du Bas-Congo, oui. Les bitoto, il n'y a pas quelque chose de pareil dans le monde entier.
Vous êtes sûr?
Je suis convaincu. Les Américains essaient de mettre le stew, mais ça n'égale pas ça. Les bitoto, c'est quelque chose d'autre. Et là, on peut mettre n'importe quoi. Les champignons, les poissons, quoi. N'importe quoi. Ça donne la créativité de la femme congolaise qui prend les patates et les tourne à un repas incroyable. C'est ce que j'aime plus. Je ne crois pas comment le dire. Le bitoto, c'est le meilleur de mon repas, oui.
Alors, pour le professeur, le bitoto, c'est le meilleur plat du monde.
Tout à fait.
Voilà. Professeur, 19 ans aux États-Unis, mais vous êtes prévu vous installer définitivement quand en RDC? Ou bien vous êtes toujours entre la RDC et les États-Unis?
Non, je pense que ce n'est pas la providence de Dieu. Je suis ici au Congo, je suis venu pour un voyage de 9 jours. Mais 9 jours se sont transformés à 14 ans. J'ai amené 16 conteneurs de 40 pieds pour équiper l'école et l'hôpital. Et chez nous, il y a un peu de problème que c'est bien au moins l'envie des autres qui se sont accaparés et volés à gauche et à droite. Jusqu'à présent, nous continuons à combattre.
Lorsque vous parlez d'équiper l'hôpital et l'école,
c'est-à-dire que nous voulons, quand on crée une université, c'est budgétivore. Donc, nous avons amené un train de biens littéralement, et 40 pieds, 16 conteneurs, qui avaient tous les équipements de l'université, de l'école primaire, de l'école secondaire et de l'hôpital de 350 lits. Mais ces biens ont été victimes d'un vol tout à fait bien orchestré à partir du port de Matadi, et on vous fait tourner en bourrique de bureau en bureau pour, et même quand le vol est attrapé, vous n'êtes pas là, et on a essayé de construire à gauche, à droite et tout ça, mais c'est quelque chose qui est intéressant quand même de voir que reconstruire un pays demande beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation. Donc un voyage de 9 jours s'est transformé à un cauchemar de 14 ans, mais pendant ce temps-ci, j'ai eu la chance de voir les qualités des Congolais. Je suis fier. S'il faut les refaire encore, je les referai encore. De voir rencontrer des jeunes gens au Congo qui n'ont presque rien, mais qui veulent l'excellence, et des parents qui n'ont pas même de salaire, mais qui veulent tout pour les études. Donc j'ai découvert une autre face des Congolais que je ne pouvais pas avoir découvert, ni était la méchanceté des gens qui ont voulu voler les biens qu'on a amenés.
Alors je vais essayer de comprendre. Vous dites un voyage de 9 jours qui se transforme en 14 ans. Ça veut dire pendant 14 ans, vous n'avez plus quitté le Congo, ou bien
pendant
vous avez fait des allers-retours?
Pendant 14 ans, j'ai tourné de bureau en bureau, essayé de reprendre les biens qui viennent des États-Unis qu'on a volés.
Mais malheureusement, vous n'avez pas réussi à récupérer ces biens.
Quand je vous parle, j'ai encore des conteneurs au port de Kilabwa ici. Donc, à part 16, j'ai encore envoyé 4 qui sont là. Donc, il y a quand même. Mais ce sont des choses qui vont avec la vie. Je ne les regrette pas, je ne me plains pas, parce que j'ai la chance d'être là et pouvoir enseigner, être avec les étudiants, les enfants, tout ça, et rencontrer les Congolais moyens. Et c'est quelqu'un de très intéressant de rencontrer.
Et votre famille vous a rejoint ici?
La famille, non, pas m'a rejoint. La famille est restée aux États-Unis. Heureusement que maintenant on a quand même les Facebook, on a les iPads, on a.
Il y a la nouvelle technologie qui nous aide à rester en contact avec les proches.
C'est vraiment Dieu qui a fait que la technologie soit notre secours.
Radio Capi, grand témoin.
Alors pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, grand témoin, vous pouvez découvrir aujourd'hui le professeur Stéphane Nzita, dit Nzita. Il est chancelier, recteur et initiateur principal de l'Université chrétienne internationale, professeur. Parlons de la création de cette université chrétienne internationale. Vous êtes parmi les initiateurs de cette université. Qu'est-ce qui vous a poussé ou motivé à pouvoir créer cette université?
Une juxtaposition de trois facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord moi-même, j'ai vu que j'étais malade pendant une année et j'ai été opéré par un docteur qui ne devait pas être dans un hôpital parce que le monsieur est parti et puis celui-là a opéré ma jambe. Il fallait cette opération aux États-Unis pour que je marche un peu correctement. Donc je voulais voir que j'amène au Congo une médecine qui répond aux normes internationales et qui fait que l'homme qui va à l'hôpital ne rentre pas mourant ou bien il soit plus malade que quand il partait. Deuxièmement, l'Université chrétienne internationale du Japon a été créée quand le Japon avait, juste après la guerre, et quand l'Amérique est partie reconstruire le Japon, et pratiquement c'est une photocopie de cette université-là, et c'est l'université qui a amené les arts libéraux pour avoir une nouvelle classe de dirigeants. Alors, l'église qui avait aidé cette université-là, certaines personnes associées à l'Université chrétienne internationale au Japon sont les mêmes personnes qui ont conseillé M. Nzita de créer une université qui essaie de faire ce que les Japonais ont fait pendant le moment de la métamorphose. Donc, nous croyons que le Congo qui se cherche, qui doit se retrouver, doit avoir à toucher en tout premier lieu le système éducatif qui va donner la formation et l'information et qui donnera la création de richesses et l'accès au crédit. Le troisième facteur, c'est que quand moi j'avais terminé l'université, quand je suis déjà docteur, mes collègues les plus brillants qui étaient à Kinshasa étaient en jeu d'eux parce qu'il y avait les années élastiques, fermées, ouvrées, changées d'école, ainsi de suite. C'était marrant que l'étudiant intelligent, mais à cause d'une victimisation de un système qui ne permet pas d'étudier, il a échoué. J'ai dit non, il faut faire autre chose. Donc, et puis en dernier lieu, il y avait le président Mobutu qui avait quand même demandé à travers ces gens qu'il y ait quelque chose de différent. Donc, il voulait quand même avoir autre que le système belge. Il nous a encouragé d'amener. Donc, quand nous sommes venus ici au Congo, nous sommes venus presque au même moment que l'école de la santé qui avait introduit les LMD avec les masters en santé publique. Mm-hmm. C'est pas tout même période que je suis venu. Donc c'était
il. En
90 déjà, on parlait de ça, mais nous avons ouvert les portes en 93, oui. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas trop parler de cette université?
Bon, écoutez, je pense que le fait qu'on en parle maintenant montre que nous avons quand même existé depuis 93. Au Congo, il y a une chose intéressante. Parce que les gens, parfois, si je m'appelle Université chrétienne internationale, quelqu'un va prendre le même nom pour paraître moi quand il n'est pas moi. Et c'est pareil que ce soit les orchestres, que ce soit les partis politiques. Les gens ont problème avec la nomenclature. Donc, il y a beaucoup d'universités qui se sont transformées en universités chrétiennes et autre chose, que les gens nous confondent. Mais l'Université chrétienne internationale, la toute première au Congo, est reconnue par l'État congolais depuis 1993, mais depuis 1995, il y a une succession des universités chrétiennes, juste pour entretenir la confusion, mais ce qui est une bonne chose, parce que quand même, ça créera quand même une les Congolais ont besoin de 5000 universités, donc on n'est pas encore là où on doit être, ce qui me réjouit, mais je pense que nos fruits sont là. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont fini chez nous, qui travaillent à la Banque mondiale, des gens qui travaillent dans tous les ministères, donc c'est comme un feu qui est déjà tissé et ça reste là.
Alors la nomenclature m'intéresse, Université chrétienne internationale. C'était pour attirer les étudiants vers vous ou bien il y a une raison particulière qui vous a poussé à donner ce nom?
Bon, je vais dire d'abord que quand les Américains sont partis pour reconstruire le Japon, les Japon avaient un système archaïque, pratiquement comme ce que nous avons aujourd'hui chez nous au Congo, il y avait beaucoup de niveaux. Alors parmi les choses qu'on a faites au Japon, c'était de refonder le système. Pendant que les Américains ont réussi à aider les Japonais à avoir une constitution stable, et aider à avoir pensée éducation, et pensée qualité, pensée industrie. On a aussi mis à côté l'université chrétienne internationale. Qui veut dire quoi? C'est d'avoir une université qui n'est pas un institut supérieur. Parce que chez nous, il y a une confusion entre institut supérieur et université. C'est un conflit qui est nouvellement créé, parce que dans les temps, on connaissait la mission avouée à l'ISP, avouée à l'INIKIN. Maintenant qu'on est au Bagdad, il y avait une différence. Deuxièmement, qu'elle était chrétienne. On ne veut pas segmenter les chrétiens, catholiques, kimbanguistes, protestants, ceci, non. Chrétienne.
Est-ce qu'un musulman peut venir étudier à cette université?
Mais la chose avec le christianisme, c'est que c'est une religion de tolérance. Nous avons des musulmans, nous avons là, c'est pas la question n'est pas d'abord essayer de rendre les gens disciples d'une foi, mais c'est question d'amener l'étudiant à une réflexion.
Mais ça peut être aussi un blocage pour certaines religions.
Bon, peut-être pas. Vous savez, ce n'est pas la science. Quand elle est science, elle est ouverte à la tolérance et à la diversité et pourquoi pas à la remise en question. Je pense que c'est plus un défi pour les chrétiens de voir que sa foi va se tenir debout devant d'autres croyances. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons ces guerres de religion, je pense que je vous dis que dans ma formation, il y avait une formation sur les relations interculturelles que je crois profondément. Donc je pense qu'au lieu d'essayer de tout segmenter, nous polariser, et c'est comme ça que nous aimons vivre, mais que ce soit en politique, il y a trop de pôles, et on va dans des extrêmes, je suis au centre. Donc je crois que c'est le centre, c'est la modération, c'est la tolérance, c'est la compréhension de l'autre qui fait finalement la différence.
Alors professeur Stéphane Nzita, Nzita, ce sont des professeurs congolais qui donnent cours dans cette université ou ce sont des professeurs étrangers?
Une université ne peut pas avoir une mission avouée d'exclure les autres. Elle est université quand elle est universelle. Donc nous avons des professeurs qui viennent des États-Unis. Il n'y a pas deux jours que je suis parti accompagner à l'aéroport professeur Bonnie Brandon, que je salue en passant. Elle est professeure de New York University. Elle est professeure ici de programme de master. Nous avons un programme de master en droit international humanitaire, et droit pénal, et santé publique et business administration. Donc, nous invitons les professeurs des Big Eight, Harvard, Toronto, New York, qui viennent ici, et d'autres écoles aussi. Mais au Congo, il y a aussi des compétences, mais souffrez que le Congo a besoin de beaucoup de professeurs. Donc, nous ne voulons pas faire la même chose qu'on extrapole de l'université de Kinshasa. Les mêmes professeurs, finalement, les enseignements.
Mais ils peuvent venir en tant que professeurs visiteurs, comme vous faites avec les étrangers.
Tout à fait, mais les dangers, celui-ci, hein? Oui, nous avons des professeurs qui viennent, qui sont là-bas. D'ailleurs, les Congolais ont fait un grand travail. Les plus grands, c'est pas les Congolais, moi-même, je suis Congolais. Mais le problème est celui-ci. Dès que nous avons un professeur qui ne peut pas encore être cloné et qui donne cours dans trois universités, c'est que nous avons dilué les contenus de l'enseignement, parce que lui n'enseignera plus, c'est l'assistant qui va enseigner. L'assistant assiste, les professeurs professent. Alors il faut que nous remettions ces choses-là à l'ordre du jour. Alors à l'Université chrétienne internationale, nous insistons que le professeur qui est professeur de son cours doit d'abord avoir son collègue de l'autre côté pour que nous n'avons rien à cacher. Donc il y a compatibilité de ces cours-là et tous les cours que nous avons, l'étudiant a le devoir de les consulter aussi sur les MOOC, Massive Online Open Learning, Open Courses, les autres universités pour savoir ce que nous donnons ici, parce qu'on n'a pas réinventé la roue ou la science. Donc, c'est ça. Donc, il y a des Congolais qui donnent cours ici, oui, mais nous sommes ouverts à tous les étrangers qui peuvent venir, et je suis content que cela a fait quand même.
Si j'essaie de vous comprendre, professeur, ça veut dire qu'il y a plus d'étrangers qui donnent cours dans cette université que des Congolais. Vous avez essayé de donner la raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'étrangers, parce que les professeurs congolais donnent cours dans 2 ou 3, 4, voire 5 universités.
Nous avons.
Ce sont les assistants qui, finalement, dispensent le cours à la place des professeurs.
C'est dangereux. Cela a contribué énormément au déclin de la qualité de l'enseignement parce que l'assistant n'est pas encore le professeur. Et les questions que le professeur peut répondre en classe, que l'assistant ne peut pas répondre en classe. Et bon, c'est un débat qui va commencer maintenant, mais je pense que, parce que le Congo a besoin de tout le monde, de tous et tout de suite, mais je pense que nous avons les professeurs à nous. Donc nous avons des gens que nous connaissons, par exemple, nous avons dans le bâton des mines, et énergie et pétrole. Bon, nous avons quelqu'un qui ne voulait pas enseigner, il vient de Colorado School of Mines, qui me professeur, écoutez, je sais qu'on ne paye pas bien dans l'enseignement, hein, mais écoutez, votre savoir est un parallèle au Congo, venez s'il vous plaît donner cours, il est là avec nous, il y a un autre qui mange dans le bacour, je fais ça, écoutez, il y a des Congolais quand même qui ne veulent pas enseigner, comme moi je ne voulais pas les faire, mais qu'on peut prendre, donc je pense qu'au lieu d'aller suturer sur les universités qui déjà ont une pénurie de professeurs, c'est plus éthique d'aller avoir son personnel propre à lui. Et maintenant, quand vous voyez dans les rapports que nous mettons dans les universités, c'est le même professeur qu'on met, il est templé ici, templé là-bas, la question devient où est le ministère qui n'a pas vu ça.
Alors les cours se donnent en quelle langue, puisque ce sont des étrangers en plus des Américains qui viennent donner cours.
Si vous allez maintenant à l'Université Catholique Nationale, il y a des cours d'anglais qui se donnent. Donc les cours se donnent en français. Si le professeur ne parle pas français, nous mettons un traducteur et nous demandons que ce cours soit enregistré pour que l'étudiant ait la chance de le suivre. Mais il y a des fois où c'est même cours là qui est en français, comme maintenant les professeurs qui viennent, professeur Bonnie Brennan, qui vient de rentrer de New York. Eh bien, elle a un cours qui était en anglais, traduit, mais quand elle est terminée, elle a donné un lien où le même cours est donné en français, maintenant l'enfant le suit. Donc nous faisons tout qu'il y ait compatibilité et qu'il y ait le maximum possible de formation, mais pour le moment le cours est en français, mais l'anglais est obligatoire.
C'est pas une université qui est à la portée de toutes les bourses, professeur. Quand vous faites venir des professeurs de l'étranger, des États-Unis, il faut aller sur Internet, il faut suivre tel lien, il faut apprendre l'anglais. Ça veut dire que c'est bien sélectionné, professeur.
Justement, c'est la différence. Nous voulons faire la démocratisation de l'enseignement. L'Université chrétienne internationale est la plus moins coûteuse du Congo. Les gens qui enseignent ici sont payés par la fondation. S'ils viennent ici, ils disent, écoutez, n'ont pas de l'argent à vous donner ici. Je demande votre savoir, on le remettre ici, c'est tout. Donc, on peut faire l'Université chrétienne nationale avec un centième de ce que moi j'ai payé pour ma licence, ce qui est d'abord l'objectif. Donc, si moi j'ai payé 160 000 pour terminer mes études, eh bien, l'étudiant Congo va payer 1600 pour terminer la licence.
Alors, quelles sont les options qu'on retrouve dans cette université?
Nous avons concentré sur les 5 domaines clés du Congo. Premièrement, le Congo était au niveau d'abord, premier niveau, donc le premier cycle, la licence. On a concentré sur les mines. C'est important que le Congo pense mines et énergie. Donc, nous avons donc les mines et pétrole. Et puis, on regarde les énergies nouvelles et renouvelables. Mais quand on y voit, on doit passer, quand on est dans ce domaine de chimie, alors on doit toucher les fragrances et produits et cosmétiques. On doit toucher aussi la pétrochimie et naturellement la chimie alimentaire. Et on a concentré sur les nouvelles technologies, donc nous avons l'informatique et télécommunications. Et nous donnons des programmes qui ne sont pas donnés ici. Par exemple, nous avons l'informatique décisionnelle, où nous avons des gens qui terminent là-bas pour arriver à faire ce qu'on appelle business intelligence, au lieu de répéter les choses qu'on donne ailleurs. Et nous avons la médecine, mais la médecine est couplée avec la santé publique et l'homme qui termine chez nous a 3 diplômes. Le premier, c'est une licence en physician assistant. Là, il est qualifié pour être entré à l'école de médecine après un examen encore. Et dès qu'il est admis en médecine, après une année, il est lié avec une école de l'Angleterre pour la santé publique. Donc, il termine comme docteur en médecine avec une maîtrise en santé publique. Et puis nous avons la gestion, mais nous pensons à la gestion avec les 3 formules. Donc il y a les hautes études commerciales de gestion où les gens qui vont parler avec les grandes banques et ainsi de suite, mais encore il y a l'économie qui est en bas là-bas, le développement rural. Mais au milieu entre les rurales et la haute économie, il y a ce qu'on appelle l'économie de gestion et gestion des projets. Nous formons des comptes dans ça. Donc ce sont les choses que nous avons concentrées prête que le Congo puisse avoir des gens qui vont créer des richesses et avancer. Donc, puis, nous avons les droits. Mais à côté de ça, il y a le deuxième cycle. Où nous voyons les Congo qui venaient depuis 1994, l'arrivée de Hutusi, et puis il y a une guerre. Et bien, les Congo doivent arriver à comprendre d'abord et les droits internationaux humanitaires. C'est un domaine qu'on doit comprendre. Nous avons mis un master qui fait venir les professeurs de Harvard, Yale, tout. Et la santé publique, au niveau du master aussi, le MBA. Nous sommes un pays riche avec beaucoup de potentialités, mais la majorité des compagnies sont en faillite. Pourquoi? Il faut aiguiser l'outil. Quand on met les choix correctement et qu'on place les gens là, il faut les mettre et qu'on le forme correctement, eh bien, vous avez la chance d'avoir un travail bien fait.
On va souffler un peu, professeur Nzita, et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Un grand témoin vous présente aujourd'hui le professeur Stéphane Zita Dinzita. Il est chancelier, recteur et initiateur principal de l'Université chrétienne internationale. Alors professeur, cette université se trouve à Kinshasa. Est-ce que vous avez un projet de pouvoir mettre des extensions dans les provinces?
Oui, mais le professeur Bonnie Brennan qui est ici, elle est partie à New York. Elle pense qu'au lieu de faire les extensions qui va trop nous épanouir, nous voulons faire les online learning.
Des cours en ligne quoi.
C'est cours en ligne. Je pense qu'on va essayer à partir du mois d'octobre et 3 premiers cours, mais c'est que sous un master qui a suivi son cours maintenant, sous le même cours en Angleterre, mais en français. Donc, on va voir les résultats de ces cours-là, de ces master maintenant, comment ils ont fait, parce qu'il faut d'abord empêcher qu'il y ait tricherie, qu'il y ait collaboration, qu'il y ait d'abord la qualité. Alors, nous sommes en train de voir comment les faire. Donc, je peux dire que d'ici octobre, on va lancer 10 cours en ligne sur uciionline.org et on va voir comment est-ce que ça va marcher. Mais oui, nous allons voir comment nous allons vers l'étudiant.
Alors, en plus d'être chancelier, recteur de l'Université chrétienne internationale, vous êtes président du conseil d'administration de l'entraide chrétienne. C'est quoi? C'est une ONG? C'est une fondation?
Oui, l'entraide chrétienne, c'est que nous sommes ceux que l'université est obligée de voir. Et si l'université n'est contre l'université, c'est grave. Donc, nous voulons voir qu'est-ce qu'on va faire pour prendre des initiatives chrétiennes. Si vous allez maintenant à l'Université chrétienne internationale, nous venons de mettre là-bas un centre d'entrepreneuriat, des recherches et d'innovation, qui permet que les chrétiens peuvent se retrouver, pas seulement chrétiens, mais avoir des idées qui pensent développement. Et j'ai eu des jeunes gens de l'église catholique qui sont venus être formés pendant 2 mois. Pendant 2 mois, oui, aujourd'hui on est dans les tombes. Ces enfants ont pris des photos. Alors, vous savez que beaucoup de Congolais arrivent à l'âge 20 ans, et ils n'ont pas 4 photos d'enfance. Alors, ces étudiants ont fait des photos, nous allons créer une petite compagnie qui vont prendre les mémoires. Donc, il y aura dans nos églises, dans nos écoles, des équipes de gens qu'ils ont formés qui prendront des photos et donner un petit album à un enfant, comme ça quand il grandit, il voit ce qu'il a fait. Quand je vois mon enfant qui est né aux États-Unis, mais écoutez, depuis la naissance, j'ai ces photos, hein, et depuis avant la naissance, j'ai ces photos jusqu'à la naissance. Moi, j'ai ma première photo quand j'avais 4 ans. Et il y a un vide de 4 ans, j'ai une autre quand j'ai 9 ans. Et c'est malheureux que l'enfance est perdue. Pas de mémoire. Alors, là, l'enfant avoir un peu d'argent pour payer ses études. Donc, la traite chrétienne stimule des idées, petites idées peut-être, mais innovantes, qui permettent que l'étudiant puisse financer ses études. Parce qu'il n'y a pas de bourse au Congo, il n'y aura pas pour les 5 à venir. Nous devons chercher des moyens pour arriver à créer des opportunités. Donc, la traite chrétienne va avoir aussi des projets pour accompagner les paysans et les agriculteurs, et ainsi de suite. Donc c'est un ONG qui représente la fondation de l'université ici pour que nous ne dépendons pas trop de l'Amérique. Uh-huh. Peut-être que dans 5 ans de maintenant, nous serons totalement indépendants.
Voilà, vous êtes aussi consultant international. Dans quel domaine?
Et d'abord, c'est dans le domaine de, certainement, de l'énergie, et de l'éducation et de la santé. Mais aussi, il y a des fois où nous faisons des arrangements pour les trading. Parce que des gens qui veulent acheter des actions, par exemple, nous pouvons les aider, qui veulent financer des projets aux États-Unis. Là, c'est ça, j'ai une corporation, une compagnie qui fait ça avec certains de nos collègues. Et c'est dans le sens toujours d'encourager qu'il y ait en Afrique de nouveaux capitaux et de nouveaux produits et de nouvelles idées.
Alors, on n'est pas que dans l'enseignement, professeur Stéphane Nzita, vous êtes dans le social, dans le culturel, dans la politique aussi.
Oui, dans la politique, oui, je suis là aussi. Parce que
vous êtes président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo.
Oui, le Parti du Peuple a encore créé en 90. Une fois de plus, nous avons quitté l'intéressant au Congo, que tout le monde a aimé, il y a beaucoup de Parti du Peuple. Mais nous sommes les tout premiers, 90, déjà nous existons. Et le but, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours au Congo les extrêmes. Nous avons choisi les centres pour aider, vous écoutez, tout le monde n'est pas toujours mauvais, mais peut-être que les idées doivent se rencontrer. Donc le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, c'est un parti qui vise le progrès du Congo lambda, des Congolais moyens. Et oui, à la croissance, il y a beaucoup de bonnes choses, mais est-ce que les Congolais moyens, les Congolais lambda, est mieux aujourd'hui qu'il était avant l'indépendance, est mieux aujourd'hui qu'il était 5 ans passés, et ainsi de suite. Donc nous sommes là intéressés au Congolais moyen, celui-là qui n'est pas dans une Jeep fumée, celui-là qui n'est pas qui n'est pas branché. Alors oui, le parti est là, mais nous sommes des pacifistes, nous ne croyons pas à la violence.
Le parti est là, mais On le sent pas.
Quand quelque chose est bon, pour l'étouffer, on crée ce qui paraît comme ça. Mais les partis, les peuples, les premiers,
les Congolais. Et vous voulez étouffer aussi?
Non, on ne sait pas étouffer. Je pense que maintenant, les problèmes que nous avons de la Constitution, et notre parti a pris quand même le devant. Et nous croyons que nous essayons de rapprocher les deux extrêmes.
Quand vous avez des députés au Parlement ou.
Non, je pense que vous êtes. Si vous n'avez pas suivi, nous avons retiré la candidature lors des élections passées parce qu'on croyait que la Constitution avait été violée par la loi électorale. Donc, nous avons retiré la candidature pour raison de moralité. Je pense que la Constitution, qui est la mère de lois, quand elle est violée, on ne peut pas avancer. Donc, pour notre point de vue, on a pensé que nous appuyons ceux qui sont là, mais nous restons à l'extérieur et nous restons une force du centre.
Donc, vous ne menez pas une politique active, vous êtes là pour appuyer seulement.
Pour le moment, nous sommes intéressés à faire trois choses. Ce que le Congo, par exemple, maintenant, vient de faire beaucoup de progrès dans beaucoup de choses. Le sang a trop coulé au Congo. Il y a trop de morts au Congo que toutes les guerres, dont l'Holocauste. Donc, le Congo doit mettre fin à ça et le seul moyen, c'est d'arriver à avoir un cycle qui sera complet. Le Congo n'a jamais achevé quelque chose. Tout commencé, jamais achevé. Mais cette fois-ci, nous voulons voir que le Congo achève un cycle électoral d'une manière appropriée. Alors, je vois la divergence des extrêmes, la majorité, l'opposition, et changer la constitution n'est pas changer, personne n'a raison, personne n'a tort, parce que nous devons réécrire notre constitution, mais pas pendant que nous sommes sur le pont Maréchal. Quand nous traversons le pont Maréchal, nous allons avoir maintenant un plan Maréchal qui sera la nouvelle constitution de la 4e République, mais pas pour le moment. Donc je dis avec tous les côtés, personne n'a tort, personne n'a raison, mais nous autres nous croyons, les forces et les centres, qu'il faut aller lentement. Il faut que les Congolais comprennent qu'est-ce qu'ils vont aller changer. Et pour le moment, le faire, ce serait un peu le forcer, ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous sommes en train de parler, si vous voyez les journaux, nous écrivons. Peut-être qu'on n'est pas là en train de chercher d'être opportuniste, mais nous sommes là en train de faire le débat comme il le faut.
J'ai lu aussi sur votre CV que vous êtes promoteur de la majorité morale.
Oui, nous pensons
c'est un nouveau terme, ça?
Oui. Je pense que le problème de la politique en Afrique, c'est justement les déficits de moralité. Quand les gens n'ont plus honte de faire ce qui est honteux, et quand les gens n'ont plus honte de faire ce qui est embarrassant, quand les gens dans toute immoralité vont crier tout haut comme si rien de mal n'est là, alors il faut quand même que quelqu'un dise, il faut que la moralité soit là. Donc il y a une certaine moralité. Les cahiers de charges que nous avons donnés à nos politiciens lors des élections, et cette question qui était obtenue par un référendum. Donc nous pensons qu'il faut une majorité morale qui ne parle pas mais qui est là. Donc les Congolais moyens ne veulent plus voir ce tiraillement et dit sur la bien, banabalété.
Et c'est vous-même que vous êtes autoproclamé comme autant de la majorité morale?
Non, il y a eu 4 et 5 majorités dans ce pays. Ici, j'ai écouté, tout le monde a parlé, majorité populaire, majorité ceci. Et voilà. La question n'est pas populaire ou quoi, c'est la moralité. Donc, nous avons passé, nous autres, nous avons une collection de partisans avec nous. Nous disons non, il y a une majorité morale qui demande l'élégance, qui demande la courtoisie, qui demande la modération, qui demande un peu l'humilité, parce que les gens qui pensent qu'ils sont indispensables, personne n'est indispensable dans un monde, dans un pays, vous savez. Donc nous pensons que la moralité c'est la clé. Le Congo a un déficit de moralité, ce n'est pas la popularité, il y a trop de gens populaires ici, ce n'est pas ceci, mais c'est la
d'abord moralité. D'abord la moralité qui compte.
C'est ça qui est le grand déficit.
On me signale, la réalisation me signale déjà qu'on n'a plus, il ne reste plus beaucoup de temps, nous sommes à la fin de notre entretien, professeur. Alors, que faire pour entrer en contact avec l'Université chrétienne internationale?
Bon, nous avons un téléphone, c'est le 0999, 4x45 859, 0999, 4x45 859.
0999 45 859, c'est le numéro d'appel pour entrer en contact avec l'Université chrétienne internationale, mais par email aussi on peut vous écrire.
Oui, c'est ICI Congo en un mot icicongo@aol.com. Ça c'est le plus facile parce qu'on a icicongo en un mot, il n'y a pas d'espace, @aol.com.
Voilà, j'espère que les auditeurs ont noté. Professeur, j'étais très contente de passer ces moments avec vous dans ce studio et dans cette émission.
Merci beaucoup, je suis très fier de m'avoir invité et je suis vraiment fier de Radio Capi. Ça fait la fierté des Congolais et de l'Afrique.
Racontez-moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Stéphane Nzita, dit Nzita, chancelier, recteur et initiateur principal de l'Université Chrétienne Internationale. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son, au micro qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.